La beauté sauvera le monde. La beauté sauvera le monde. C'est une citation de Dostoïevski dans son ouvrage L'Idiot, qui raconte l'histoire d'un prince idiot, un prince qui ne sait pas s'imposer. C'est un prince qui ne sait pas, il est incapable d'agir, mais qui cependant, il représente une conscience généreuse, il représente une conscience bonne, une bonne conscience, ou mieux d'un monde hostile, ou mieux d'un monde mauvais. Le prince idiot, il est justement cette voix qui nous amène à penser, est-ce que ça vaut la peine d'être bon? Est-ce que, ou plutôt, est-ce qu'en étant bon, en fait, je suis en train d'être naïf? Ou bébête. Nous qui sommes chrétiens, nous qui non seulement croyons en Jésus, mais nous qui voulons reproduire les styles de vie de Jésus, nous sommes souvent confrontés à la question, ou nous sommes souvent confrontés à la réalité d'étendre l'autre joue, par exemple, de pardonner 70 fois 7, de rendre le mal par le bien, de ne pas chercher la vengeance, de chercher d'abord l'intérêt de l'autre, de chercher d'abord l'intérêt du prochain, d'être pacificateur. Nous qui sommes chrétiens, nous nous posons la question, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vraiment dans un monde tel que le nôtre, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que dans un monde tellement rempli de conflits, ce que Jésus a enseigné, est-ce que ça marche réellement? Vaut-il la peine d'être bon? Ou est-ce que suivre Jésus dans un monde comme le nôtre est une manière d'être passif? Ou est une manière d'être bébête? C'est après avoir réfléchi à tout cela qu'aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous 1 Samuel, le chapitre 25, qui nous raconte l'histoire d'Abigaïl. Abigaïl. J'aimerais vous inviter à laisser vos Bibles, vos smartphones, vos iPads, vos, peu importe, en 1 Samuel, chapitre 25. Si vous n'êtes pas trop familiarisé avec la Bible, tout au début, il y a l'index avec les livres. Vous pouvez trouver 1 Samuel, chapitre 25, qui nous raconte l'histoire d'Abigaïl. Abigaïl, elle nous est présentée déjà ici au verset 3 comme étant une femme intelligente et belle. Dans d'autres traductions, dans d'autres versions, c'est écrit qu'Abigaïl est une femme pleine de bon sens et très belle. Et c'est justement ce bon sens et cette beauté d'Abigaïl qui sont perçus comme rédempteurs, ou plutôt sauveteurs. Mais ce n'est pas cette impression parfois que nous avons en lisant ce texte. Parce que quand nous lisons ce texte, cette histoire, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'Abigaïl, elle est intelligente ou plutôt bête, ou plutôt faible? Est-ce qu'elle est belle et pleine de bon sens, ou tout simplement une femme manipulée? Abigaïl est mariée à un homme appelé Nabal. Et Nabal, si vous voulez là, regarder là au verset 2, il nous est présenté comme un homme étant très riche. Très riche. Cependant, son prénom décrit son identité. Et Nabal signifie stupide, idiot, imbécile, insensé, fou. Donc Abigail était mariée, elle est mariée à un homme très riche, mais brut, grossier, idiot. Et cette histoire-là se passe dans un contexte où David, le roi David, n'était pas encore roi d'Israël. Il était fugitif. Il était fugitif avec, car les rois en vigueur, il était le roi Saul qui voulait tuer David. Et David, là, il est caché avec 400 hommes. 400 hommes que la Bible décrit comme étant des hommes insatisfaits, amers,
frustrées, exclues, qui voulaient du changement et qui se sont mises avec le futur roi qui n'était pas encore roi. Et pendant que David et ses hommes ils s'enfuyèrent, tout à coup ils arrivèrent sur le territoire de Nabal. Nabal avait plein de territoires, c'était un homme riche. Et puis quand David arrivait avec ses hommes dans le territoire de Nabal, il envoya ses hommes pour demander de l'aide à Nabal. Genre, « Hey Nabal, on est là dans ton territoire, hein? Est-ce que tu ne pourrais pas nous fournir un peu de viande, quelques saucisses? On aimerait bien faire une grillade, on aimerait bien boire et manger un petit coup. Ça joue, hein? » Et puis au verset 10, il y a la réponse de Nabal. David, fils de Jessé, qui est-ce? Aujourd'hui, il y a trop d'esclaves qui s'en vont de chez leur maître. Et moi, je devrais prendre de mon pain, de mon eau, de la viande que j'ai préparée pour mes tondeurs et les donner à des gens dont je ne sais même pas d'où ils viennent. C'est qui David? Et puis, alors les hommes de David, ils retournèrent vers David et ils lui dirent, « David, ce type-là, Nabal, il s'en fiche de toi. Toi, pour lui, t'es rien. » Alors David, il fut furieux. Furieux. Et il décida d'aller lui-même discuter avec ce type-là. Mais n'alla pas pour discuter amicalement. Hein? Nabal, tu sais. Hein? Ou pour faire, je ne sais pas, pour négocier. Non. Il y a là avec sa bande de rebelles. 400 hommes frustrés. Et quand ils furent à mi-chemin, les serviteurs de Nabal, ils apprirent qu'il allait les écraser, les tuer, les annihiler. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils coururent pour discuter avec qui? Avec Abigaïl. Et puis au verset 14 dit qu'un des serviteurs de Nabal vint avertir Abigaïl, la femme de son maître, en ces termes. Depuis le désert, David a envoyé des messagers saluer notre maître. Mais celui-ci les a mal reçus. Pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal. Nous n'avons rien perdu pendant tout le temps que nous l'avons côtoyé dans les campagnes. Jour et nuit, ils ont été comme une muraille protectrice autour de nous, aussi longtemps que nous avons gardé les troupeaux dans la région où ils étaient. Maintenant donc, réfléchis bien à ce que tu dois faire. Car sans aucun doute, le malheur va s'abattre sur notre maître et sur sa famille. Il a lui-même si mauvais caractère qu'on ne peut rien lui dire. Alors Abigaïl, elle a pris une décision tout de suite, quoi. Elle a dit, mais envoyez-leur tout ce qu'il a ici. Envoyez la viande, gâteau, dessert, saucisse. Allez-y, allez-y. Regardez tout ce qu'elle a envoyé au verset 18. Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 autres de vin, 5 brebis tout préparés, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 aux figues sèches. Puis le texte nous dit au verset 19 qu'elle ne dit rien à Nabal. Marie ne sait rien. Verset 20. Installée sur son âne, elle descendait cachée par la colline Pendant ce temps, David et ses compagnons avançaient dans sa direction. Soudain, elle se trouva en face d'eux. David venait justement de se dire, « Voilà ce que j'ai gagné à protéger dans le désert tous les biens de cet individu, afin qu'il ne subisse aucune perte. Il me rend le mal pour le bien, alors que Dieu m'inflige la plus terrible des punitions si jusqu'à demain matin, je laisse un seul homme en vie dans la famille de Nabal. » Mais quand Abigaïl aperçoit David, verset 23, elle a descendu rapidement de l'âne, elle a tombé sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « C'est ma faute, mon Seigneur. C'est ma faute. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, mon mari. Car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. C'est ma faute. C'est ma faute. Oublie mon mari. Il est fou. Il est un idiot. C'est ma faute. » Alors elle a commencé à discuter avec David. Puis au verset 28, elle dit, « Pardonne la faute de ta servante. » Pas la faute de Nabal. « Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et on veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme avec une fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Voilà la manière dont elle parla avec David. Et quelle fut la réponse? Verset 31. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui a retenu ma main. Monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » Alors Abigaïl, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourna chez elle, puis elle rencontra son mari bourré, ivre. Il était en train de faire la fête. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Puis verset 37, « Mais le lendemain matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée. » Donc elle attend que son mari. Puis le lendemain, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Nabal, il eut un infarctus. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Verset 38, environ 10 jours après, il mourut. Puis, les amis, la nouvelle arriva à David. David, est-ce que tu te souviens d'Abigaïl? Oui, bien sûr, cette femme belle, intelligente et tout. Est-ce que tu te souviens de son mari, Nabal, qui est l'idiot là? Oui, je me souviens. Alors, il est mort. Il est mort. Loué soit Dieu. Verset 39, « Béni soit l'Éternel. Abigaïl est maintenant veuve. » Elle est veuve maintenant. « Béni soit l'Éternel. » Alors David, il envoya ses hommes pour aller demander à Abigaïl si elle voulait l'épouser. Verset 39, « David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. » Les serviteurs de David arrivèrent chez lui, chez Abigaïl, à Carmel, et ils lui dirent, « David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigaïl partit immédiatement, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. Amen. Fin de l'histoire. Quelle histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Quelle histoire merveilleuse, l'histoire de cette femme nommée Abigail. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais cette histoire, elle heurte notre sensibilité, nos sensibilités. Parce que le contexte de cette histoire est un contexte de brutalité, avec des attitudes qu'aujourd'hui ne seraient pas du tout approuvées, avec certaines positions qu'aujourd'hui ne seraient plus soutenues. C'est un monde d'il y a 3000 ans, mais c'est aussi un monde très proche du nôtre, composé de gens égoïstes, égocentriques, qui ne font que de penser à ce qui leur appartient, à leurs biens, à leurs propriétés, tout est pour soi, tout est pour soi. Et puis, il y a aussi, c'est un monde aussi composé de gens et de personnes nécessiteuses, violentes, amères, problématiques, en difficulté. Donc, d'un côté, il y a Nabal, et de l'autre côté, il y a David. D'un côté, il y a un homme égoïste, égocentrique, et puis de l'autre côté, il y a un tout-puissant, quelqu'un qui est disposé à tuer et à envahir le territoire tout simplement parce qu'il ne veut pas être contrarié. Et au milieu de ces deux brutes, il y a une femme, Abigail. Une femme qui, dans son contexte, elle est dans une condition totalement défavorisée. Elle est une simple propriété de son mari. Elle est soumise. Elle appelle tout le monde de mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Parce que la place de la femme dans cette société était exactement celle-ci. Quelqu'un qui était et qui est au service des hommes qui la possédaient. Mais il y a un détail. Elle est belle et intelligente. Et c'est elle, Abigail, qui malgré son statut de femme, c'est elle qui contrôle toute l'histoire. C'est elle qui contrôle Nabal. C'est elle qui contrôle David. C'est elle qui contrôle les serviteurs de David, y compris les serviteurs de son mari. C'est elle, Abigail, qui met en ordre le monde des brutes. Puis je me souviens encore une fois de la citation de Dostoïevski. La beauté sauvera le monde. Alors, quelle est la beauté de cette femme? Quelle est la beauté qui empêche un bain de sang, une tuerie? Quelle est la beauté de cette femme? Abigail, elle est quelqu'un de sensé. Abigail est quelqu'un de raisonnable. Et vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup dérangé dans cette histoire-là. Il y a une chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est pourquoi, dit-elle, c'est ma faute. Pardonne la faute de ta servante. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle dit cela? Parce qu'elle est responsable. C'est comme si elle disait, je sais qui tu es. Je sais que tu es David. Je sais que tu es le futur roi d'Israël. Et je sais qui est mon mari. Je sais qu'il n'en vaut rien. Un idiot. Je sais que j'aurais dû être attentif à cette réalité. J'aurais dû être attentif à cette réalité, mais j'étais négligente, j'étais imprudente. Je n'ai même pas fait attention lorsque tu as envoyé tes hommes. Je n'aurais pas dû permettre que les choses arrivent à ce point-là. Je n'aurais pas dû permettre que les choses arrivent dans cette situation où on est tous presque en train de faire la guerre. Parce que celui qui voit devient responsable. Et Abigaïl, elle voit cette situation. Abigaïl, elle est la voix de la lucidité. Elle est la voix du bon sens, ou mieux, d'un scénario de brutalité. Abigaïl, elle est le bon sens parmi deux hommes guidés par leur cupidité. Abigaïl, elle est le bon sens parmi deux hommes guidés par leur rancune, par leur dispute de pouvoir. Abigaïl, elle est lucide. Elle voit, elle se responsabilise, elle prend des mesures, elle prend une attitude. Elle dit, prenez tout ce qu'il y a ici, allez, allez, dessert, vin, allez-y. Et envoyez-le à David, parce que personne ne va mourir ici aujourd'hui. Personne ne va mourir ici aujourd'hui. Et puis le lendemain, elle dit à son mari, Nabal, j'ai passé la carte de crédit. La facture de la carte de crédit, la fin du mois, ça ne va pas être... Et puis les types, il y a eu un infarctus, là. Oh, les hommes, hein, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Hein. Votre femme est là devant un magasin. Et puis... Ou vice-versa, hein, c'est Marie qui achète aujourd'hui. Donc, des personnes lucides, des personnes belles, qui voient, qui prennent des mesures et qui assument les conséquences. Parce que c'est lui qui est lucide, il est responsable. Par exemple, tu as remarqué que dans la salle ici, il y a une prise qui est toute ouverte avec les câbles qui ressortent. C'est un exemple, hein. Peut-être qu'il y a, je sais pas. Et puis tu penses, un jour, un enfant, il va mettre la main là-dedans et il va se faire électrocuter. Et puis tu te lèves, tu pars et tu penses, je ne travaille pas ici. Je ne suis pas le concierge de ce bâtiment. Cette église-là, elle est trop négligente. Ils vont voir. Et puis, effectivement, le dimanche d'après, il y a un enfant qui met la main dans la prise et puis il se fait électrocuter. Et puis, c'est la faute à qui? La tienne. Toi qui as vu la prise toute ouverte, et tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. Parce que c'est lui qui voit. Il doit se responsabiliser. Il doit prendre des mesures. C'est ce qu'Abigaïl a fait. Mais elle le fait, bien sûr, avec toute une douceur. Avec sa beauté. Elle vient vers David, hein, les cheveux bouclés comme ça. David, tu es roi, David. David, tu es le futur roi. Tu ne peux pas agir de cette manière. Tu ne peux pas te mettre au même niveau que mon mari. Ça ne vaut rien. Tu n'es pas fou, David. David, tu n'es pas malhonnête. Tu es roi. Tu es roi. Alors il faut agir comme un tel. Il faut agir comme roi. Ne tâche pas tes mains de sang, David. Toi, tu as épargné la vie du roi Saul. Et maintenant, tu veux tuer mon mari. Ce n'est pas logique. Il ne faut pas laisser cela t'enlever des chemins de Dieu pour ta vie. Il ne faut pas laisser cela t'enlever des projets de Dieu pour toi. David, Dieu, il va t'élever. Dieu, il va te mettre sur le trône. Fais pas de bêtises. Et effectivement, c'était comme ça que David a interprété l'interpellation d'Abigaïl. Parce que quand Nabal est mort, il dit, « Je remercie le Seigneur qui a pris ma défense au moment où j'étais insulté par l'attitude de Nabal. Je le remercie de m'avoir retenu de faire le mal et d'avoir fait retomber sur la tête de Nabal sa propre méchanceté. Mais bon, où est-ce que je vais en venir? J'aimerais dire tout simplement que nous avons besoin de plus de personnes comme Abigaïl. Des personnes qui aient cet esprit du Christ. Des personnes qui aient cet esprit, comme l'apôtre Paul l'écrit en Romains, le chapitre 12, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, « C'est moi qui tiendrai vengeance, c'est moi qui paierai le retour, dit le Seigneur. » Et aussi, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais du charbon ardent sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. » Dans l'ouvrage de Dostoïevski, lorsque le prince idiot dit « La beauté sauvera le monde », quelqu'un demande au prince « Mais quelle est la beauté qui sauvera le monde ?» Et puis le prince, il répond rien. Il ne répond rien. Il s'aimait, il s'approche de quelqu'un qui était mourant, qui était en train de mourir, et puis il reste là, à côté. Et il s'occupe de cette personne jusqu'à ce qu'elle meure. Et puis la suggestion de Dostoïevski, c'est que la beauté qui sauve le monde, c'est la beauté de la compassion, c'est la beauté de l'empathie, c'est la beauté de la solidarité. La beauté qui sauve le monde est la beauté que Jésus nous a apprise. Tendre l'autre joue, pardonner, ne pas se venger, vaincre le mal par le bien. Voilà la beauté qui sauve le monde. Parce que le monde est vraiment comme ça. Des personnes avec des privilèges, des personnes qui ont le pouvoir, égoïste, égocentrique, nécessiteuse, problématique, violente, amère. Mais au milieu de tout cela, nous avons besoin de personnes comme Abigail qui disent « Arrêtez là! Arrêtez! Arrêtez tout le monde !» Au milieu de tout cela, nous avons besoin de personnes sensées qui voient et qui disent « Le monde ne va pas bien, mais moi, je veux me responsabiliser. Mais moi, je vais prendre des mesures. » Quelqu'un doit s'arrêter et dire, « Personne ne va se blesser ici aujourd'hui. » Des personnes qui soient lucides, qui aient du bon sens, belles, et qui fassent ce que Jésus a dit à la croix. « Père, pardonne-leur parce qu'ils sont tous comme Nabal ici. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'assume le préjudice. Ne règle pas ça avec eux. Règle ça avec moi. Je suis prêt, je suis disposé à tout perdre afin qu'il n'y ait pas un versement de sang universel. Je suis prêt à perdre. Et le monde a besoin de gens comme ça. Le monde a besoin de gens comme ça là dans ton quartier. Le monde a besoin de gens comme ça chez toi. Le monde a besoin et les familles ont besoin de gens comme ça. Des personnes qui disent, mais est-ce que tout le monde ici a perdu la raison? Est-ce que n'y a-t-il plus de personnes lucides ici? Tout le monde est parti pour l'ignorance, pour la violence, mais ça va quoi? Quelqu'un ici doit avoir du bon sens et être disposé à perdre afin d'arrêter l'avancement du mal et arrêter l'avancement de la violence. Quelqu'un doit vaincre le mal par le bien. Et je crois que nous pouvons ici tous dire, le monde ne va pas bien. Oui, non, il ne va pas bien. Est-ce qu'on veut se responsabiliser? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on veut prendre des mesures afin d'arrêter l'avancement du mal? Oui, bien sûr. Même si on doit perdre. Léo, je suis croyant, mais je ne suis pas bête. Léo, je suis chrétien, mais je ne suis pas idiot. Le monde n'a pas besoin de personnes pragmatiques qui font des calculs des coûts-bénéfices et qui restent là en train de protéger leurs avantages, leurs privilèges. Le monde a besoin de personnes sensées et qui soient disposées à perdre des privilèges, des biens, des choses qu'elles jugent être leurs droits. Parce que vous savez, le discours qui nourrissent la violence sont dans la bouche de Nabal et de David. Le monde a besoin de plus de personnes comme Abigail. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas, je pense que oui. Mais si tu devais choisir entre être Nabal ou David qui est prêt à salir ses mains de sang, ou alors Abigail, tu choisirais d'être qui? Moi, j'aimerais que Dieu me regarde depuis le ciel, me trouve beau. Et que Dieu vous bénisse. Amen.